Des poches sous les yeux, l'émission. Ciao.
Eh bien, bienvenue sur la Radio Béton, bienvenue sur le 93.6, bienvenue dans Des Poches, l'émission saison 4 déjà. Nous sommes aujourd'hui en direct de la médiathèque des Fontaines à Tours Sud et nous les remercions pour leur accueil. Au sommaire de cette émission, interview, chronique et naturellement un inénarrable nouvel épisode de notre feuilleton radiophonique, la Bourboule Parano. D'habitude, nous commençons l'émission avec le lieu qui nous reçoit, mais actualité et timing serré de nos invités oblige. Nous allons commencer par l'interview de nos invités. Martin Vinclair, votre blog l'annonce, Vinclair is coming. Et on est bien content de pouvoir ajouter, Vinclair is there. Voilà. Bonjour Martin Vinclair.
Bonjour.
Et bonjour Céline Giton.
Bonjour.
Alors, Martin Vinclair, vous êtes à Tours depuis quelques semaines dans le cadre d'une résidence d'écriture. Alors, nous, à Radio Béton, plutôt Radio Rock, et donc les résidences d'écriture des musiciens, on a déjà entendu parler, et ça semble toujours une espèce de grosse fiesta où tout le monde fume, boit, et on ne sait pas trop s'il y a vraiment de la création. Comment ça se passe chez les écrivains? C'est quoi une résidence d'écriture? Chaque matin, on se réveille dans un endroit qui n'est pas chez soi, on est seul, face à une page blanche, obligé d'écrire?
Non, pas du tout. C'est en fait, le but de la résidence, c'est que je fasse des recherches sur la ville et sur la région. Parce que le roman que je veux écrire est un roman à la fois historique et un roman de science-fiction qui se passe à Tours en 1968 et en 1942. Et moi, j'ai fait mes études à Tours pendant les années 70, mais la ville de Tours de 70 c'est déjà disparu, donc a fortiori celle des années 68 et 42. Et donc, mon idée, c'était de proposer à la bibliothèque de faire une résidence, c'est-à-dire qu'en échange de mes bons services, c'est-à-dire que par exemple, je vais faire des ateliers d'écriture, je fais des conférences, etc., il y a tout un programme, en échange de ça, je suis sur place et je suis accueilli sur place et je peux mener mes recherches. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés, mais c'est surtout, un moment de recherche, c'est pas un moment d'écriture, c'est une fois que j'ai fait mes recherches et que j'ai accumulé beaucoup de documentation, là je vais rentrer chez moi et c'est chez moi que je vais écrire.
Mais alors finalement, qu'apporte une résidence in situ à l'heure de l'accès facilité de la formation grâce au web? C'est que vous êtes 1.0 ou
Non, c'est pas ça. C'est que je suis très web, mais il y a des choses que vous pouvez pas faire sur le web. Vous pouvez pas arpenter les rues. Vous pouvez pas. Un truc très simple. Je suis arrivé, j'ai commencé à parler de l'année 1942 et quelqu'un m'a dit, vous savez que Tours a été bombardé en 1940, ce que j'ignorais. Et m'a sorti un article qui décrit la destruction du front de Loire en 1940. Tout ça, c'est des choses que je ne pouvais pas savoir, je n'aurais pas pu savoir si on ne me l'avait pas dit. Et par exemple, il y a des choses qui me sont dites par des gens que je rencontre. Alors, je peux faire toutes les recherches que je veux en ligne, mais d'abord, il faut savoir ce qu'on cherche. Et ensuite, il y a des gens qui vous donnent des pistes. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous êtes au contact. J'ai déjà fait cette expérience à San Francisco, parce que j'ai fait une résidence d'auteur à San Francisco dans les années... Alors, en 2017, j'y suis retourné 2 ans après et j'ai écrit un roman qui s'appelle France en Amérique. Et il y a des choses que je n'aurais pas su si je n'avais pas été sur place pour, encore une fois, rencontrer des gens, voir où se situaient les différents lieux et puis connaître l'histoire aussi de la topographie de la ville.
Et pourquoi avoir sollicité la bibliothèque municipale de Tours?
Parce que je voulais solliciter une institution publique. Et puis aussi parce que j'avais découvert qu'il y a une institution qui s'appelle le Cyclic qui finance ce genre de résidence d'artistes, mais qui ne donne pas l'argent aux artistes, elle le donne aux institutions. Donc j'avais déjà fait des conférences à la bibliothèque de Tours. J'ai contacté la bibliothèque de Tours parce que pour moi, c'était... Et puis je suis un rat de bibliothèque aussi. J'ai toujours été un rat de bibliothèque. Donc pour moi, c'était vraiment le lieu, enfin l'interlocuteur idéal, quoi.
Céline, du coup, à la BM, c'était... il y a un mec, il s'appelle Martin Vinclair, je crois, qui veut faire une résidence. Ou alors c'était... Ah non, mais je rêve, Martin Vinclair.
C'était un peu la deuxième solution, en effet. Non, on a tout de suite été complètement séduites et on a tout de suite voulu... imaginer le projet ensemble avec tous les collègues du réseau. En fait, le plus compliqué, ça a été de monter le dossier administratif pour le soumettre à Cyclic. Voilà, ça a pris un peu de temps. Mais avec Martin Vinclair, on a échangé beaucoup par mail, on a fait des visios. il nous a fait beaucoup de propositions initialement. Et donc, nous, on a tissé notre programme pour tous les lieux de la bibliothèque, les lycées, l'université avec la fac de médecine, librairie, énormément de propositions.
Un jeu d'enfants pour réunir ses partenaires ou
Assez facile, avec le nom de Martin Vinclair, en fait.
Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que je viens à Tours. Je veux dire, c'est une ville que je connais, où je suis beaucoup venu pour ce type d'activité. Donc les gens savaient à qui ils avaient affaire. Et puis, voilà, donc c'était assez facile. Oui.
Alors justement, vous habitez au Canada, hein, vous revenez de temps en temps en Touraine. Vous y avez étudié d'ailleurs, hein, au temps de Jean Royer. Quel regard avez-vous sur l'évolution de la ville ?
Ah, moi, j'ai toujours beaucoup aimé Tours. Je trouve qu'elle... Et puis voilà, en plus, maintenant, je fais la connaissance de zones, de lieux, de centres d'activité qui n'existaient pas. Donc je trouve que la ville a évolué plutôt bien. Enfin, c'est une ville qui s'est modernisée. Je trouve que... Moi, j'aime bien marcher le long de la rue nationale parce que maintenant, il y a le tram, donc il n'y a plus de voitures. Donc il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Je sais que les chauffeurs de voitures, eux, ils sont moins contents. Mais enfin... Je trouve que, par exemple, pour les piétons, pour les touristes, c'est beaucoup mieux. Puis c'est une belle ville, je veux dire, il fait souvent beau. Moi, je savais où j'allais. Je veux dire, j'ai passé 10 ans ici quand j'étais étudiant en médecine. Je faisais du vélo dans tout Tours.
Ce temps en Touraine, donc, comme l'a dit Céline, est ponctué d'actions de médiation. Est-ce que c'est vécu comme une imposition, comme une contrainte ?
Non, pas du tout. C'est pas une... Non, parce que d'abord, je sais ce que c'est que d'être en résidence. La bibliothèque me salarie pendant 2 mois. Elle me facilite la vie à tout point de vue. J'ai accès absolument à des choses auxquelles je pourrais pas avoir accès facilement autrement. C'est en échange du fait que moi, je fais des activités et des animations. Et non seulement ça me pose aucun problème, mais j'adore ça. Je veux dire, faire un atelier d'écriture, rencontrer les gens en bibliothèque, rencontrer les gens en librairie, faire des conférences. Vous me mettez sur un circuit comme ça toute l'année, je le fais toute l'année. C'est pas un problème. Ça permet pas vraiment beaucoup d'écrire, donc je ne fais pas ce genre de choses toute l'année. Mais non, je suis très heureux de le faire.
Cet après-midi, il y a donc quelque chose à la...
Une table ronde sur la santé des femmes. Voilà. Le titre, c'est « Santé des femmes, levons les tabous ». Avec le professeur Pauline Saint-Martin.
Sociologue, c'est ça ?
Une historienne de la médecine, Conchita Penuto. Et le docteur Viguier, qui est gynécologue. Voilà. Et également, ce sera modéré par Florence Salazar.
Et ça, c'est à la fac de lettres.
À l'université, site des tanneurs. Et il reste de la place. Enfin, c'est déjà une très, très belle salle prévue, mais il reste encore de la place.
Martin Vinclair, quel tabou sur la santé des femmes ?
Moi, je dirais que le tabou numéro un, c'est qu'on n'écoute pas ce qu'elles disent. C'est-à-dire, qui connaît mieux sa santé que la personne concernée ? Donc, et la plupart des femmes ont un très grand nombre de motifs de santé à présenter. Le premier tabou, c'est de ne pas les écouter. Si on les écoute, il n'y a plus de tabou.
Médecin ou écrivain, alors ?
Soignant et écrivain.
Aujourd'hui, vous avez choisi. Vous n'êtes plus que, entre guillemets, écrivain.
On est toujours médecin, parce que être médecin, c'est aussi transmettre du savoir et transmettre des informations. Et ça, je continue à le faire. Moi, je veux dire, le soin, c'est quelque chose qu'on peut faire. Regarde, un psychothérapeute ne touche pas les gens, mais fait du soin quand même. Donc, non, je continue à être un soignant, mais avec d'autres moyens que ceux que j'avais quand j'étais généraliste.
Radio Béton vous a déjà interviewé, notamment avec Mélanie, qui vous avez interviewé plusieurs fois, des chroniques aussi qu'on avait diffusées sur les ondes. Et Hélène, une question pour vous. Quel regard avez-vous sur la polémique autour de la banderole de la soirée des étudiants en médecine à Tours cette semaine, où il y avait une allégorie au fait de droguer les femmes, c'est-à-dire qu'il y avait, c'était la soirée d'intégration des étudiants, vous connaissez ça, puisque oui. Dans votre temps, il y avait ça aussi, et donc on voit une coupe de cocktail avec une femme nue à l'intérieur et c'est marqué GHBIT.
Je trouve ça très con. Je trouve ça très très con et je trouve très con en plus de continuer à revendiquer et à diffuser ce genre d'images qui sont des images qui desservent absolument tout le monde, qui sont dégradantes pour tout le monde et qui ne donnent pas une bonne idée en plus des futurs professionnels de santé. Donc pour moi tout ce qui est sexiste et qui est fait par des étudiants en médecine, évidemment c'est insultant pour les femmes, mais ça les dessert eux après dans l'image qu'on va avoir d'eux. Donc en plus c'est très stupide.
Parce que de votre temps, entre guillemets.
C'était pire.
Mais il y avait quand même une majorité d'hommes, peut-être déjà, en médecine.
Ça n'excuse rien.
Aujourd'hui, il y a une majorité de femmes, une très nette majorité de
oui,
femmes.
Oui.
Alors que cet atavisme des étudiants en médecine pour une sexualisation à outrance, une dégradation des femmes.
Il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Je veux dire, moi, je connais plein d'autres pays dans lesquels, quand vous leur dites ça, ils tombent des nues. Tout simplement parce que la France est encore un pays extrêmement et profondément sexiste, extrêmement et profondément élitiste. Et que c'est une manière de manifester l'élitisme des étudiants en médecine. Alors même, comme vous dites, que les garçons sont maintenant minoritaires. Mais il faut savoir qu'il y a des femmes qui participent à ça. Hein. Comme le disait une sociologue avec qui je discutais un jour, le sexisme, c'est co-construit. Ça peut être construit aussi par des femmes, pour des raisons qui sont très compliquées à expliquer des fois. Mais je veux dire, il y a une participation d'un certain nombre de femmes. Simplement, on ne peut pas, par exemple, enfin, moi c'est ce que je pense, on ne peut pas former des professionnels de santé sur de l'élitisme, sur le fait de mépriser des gens, quelle que soit la raison, que ce soit leur genre, que ce soit leur origine ethnique, que ce soit leur langue, etc. On ne peut pas fonder du soin là-dessus. Il ne peut pas y avoir du soin dans un rapport de force ou dans un rapport de domination. Donc l'idée pour laquelle je milite, c'est que la seule manière de former des professionnels de santé, c'est de choisir des gens qui ont du respect pour les autres. Et il faut les choisir très tôt. Il ne faut pas s'attendre à former des gens à avoir le respect. Parce que si on n'a pas déjà très tôt le respect des autres, si on est élitiste très très tôt, on va le rester. Et ça, c'est un des problèmes de la section du choix des professionnels de santé. C'est qu'il n'y a pas de choix d'interview, d'entretien psychologique, de discussion avec les personnes au départ pour essayer de savoir, effectivement, si elles ne sont pas tout simplement, elles sont pas tout simplement là pour avoir un statut et non pas pour soigner.
Parce qu'on pourrait dire la même chose de la part des instits.
Absolument, on peut dire la même chose des instits. Moi, je ne parle que pour les professionnels de santé parce que c'est le domaine que je connais, mais à mon avis, effectivement, c'est la même chose pour tout le monde.
Et c'est spécifique à la France ou
C'est très, très marqué. Ça a existé partout hein, et ça existe encore dans beaucoup d'endroits. Mais quand je compare entre des pays, en particulier les pays anglo-saxons ou les pays scandinaves et la France est très en retard là-dessus. La France continue à avoir une vision extrêmement hiérarchisée de la société et des rapports en particulier entre hommes et femmes. Hein, comme disait Friedrich Engels, dans la famille, le premier prolétaire, c'est la femme. En France, c'est toujours vrai. Alors que, je veux dire, les femmes travaillent autant, voire plus que les hommes. Elles ont autant de responsabilités. Elles ont un poids, une charge mentale infiniment supérieure à celle des hommes. Une femme qui est enceinte, ça c'est un truc que je sais depuis très longtemps et qui a changé ma perception. Une femme, dès qu'elle est enceinte, risque sa vie. Parce qu'on peut mourir d'être enceinte. Et ça, même dans un pays développé comme la France. Un homme ne court jamais de risque quand il y a une grossesse qui se passe. Donc rien que pour ça, on devrait avoir le plus grand respect pour les femmes qui choisissent d'être enceintes. Rien que pour ça, on devrait avoir le plus grand respect pour les femmes qui disent « je ne veux jamais être enceinte » ou « j'interromps ma grossesse ». Ça ne se discute pas. Quand il y a une grossesse, la femme court le risque de mourir. Bon, alors à partir de ce moment-là, je m'incline... Et je m'incline bien bas et je dis aux gens qui n'ont pas réfléchi à ça, je leur dis, utilisez votre tête une minute, parce que le mépris que vous avez, c'est un mépris qui témoigne de votre ignorance et aussi de votre absence de respect pour ce que c'est que la vie humaine. Voilà. Donc je suis un peu monomaniaque sur ce genre de sujet, mais je crois qu'il ne peut pas y avoir de discussion. Voilà.
Très bien, comme ça on a une petite... Un petit préliminaire, un petit teaser par rapport à ce qui
vous dit. Qui va se dire probablement cet après-midi et que mes collègues féminines vont probablement dire de façon encore plus vive que moi.
Céline, quelles sont les autres actions, même si on n'est pas à la fin, mais on commence à être vers la fin
On est presque au milieu déjà, oui. La semaine prochaine, on a une visite guidée qui est déjà complète, une visite de la ville, le 2 après-midi. Le soir, une rencontre avec Aude Mermillot.
qui a adapté un de mes romans en bande dessinée.
Voilà, Le cœur des femmes.
Très beau travail.
Et qui a également une actualité puisqu'elle vient de sortir Éclore sur l'accouchement, la sexualité des femmes. Et le 9 octobre, on a également une rencontre autour de comment on fabrique un roman historique avec Romain Slocombe. Donc deux auteurs importants romans historiques.
Je vais dans deux lycées aussi.
Très bien. Une dernière petite question. Un petit conseil de lecture, pas un de vos bouquins. Non, mais...
non. moi, je conseille de lire Éclore, parce qu'il va sortir. Donc,
il est sorti, je crois.
Il est sorti, donc je conseille de lire Éclore, parce que j'ai vu quelques planches et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai pas lu l'album encore. Mais j'ai lu les trois, forcément. J'ai lu forcément les trois albums précédents de Audemer Millau, qui sont tout à fait splendides. Donc ça m'étonnerait que celui-là ne le soit pas aussi.
Eh bien, merci Martin Vinclair, merci Céline.
Merci.
Et puis, dépêchez-vous, parce que votre repas vous attend, il ne faudrait pas...
Non, ce n'est pas le repas, c'est les personnes avec qui on va être venu.
Ok, et puis nous, on va se faire une toute petite pause avant de retrouver Nadia en écoutant une pastille de Daniel, Pascal et Jeanne intitulée « On s'emmerde » tirée de l'album « Moins qu'hier » de Fab Caro.
Et avec Philippe, ça va ?
Oui, super. J'ai enfin trouvé quelqu'un d'enveloppant, de rassurant. On partage beaucoup de choses. On lit, on va au ciné. On adore marcher dans la forêt main dans la main. On fait la cuisine ensemble, on écoute la radio. C'est une relation très tendre, très complice. Et toi, avec Bruno, ça va ?
Oui, nous aussi, on s'emmerde.
Voilà, de retour... dans Des poches sous les yeux, l'émission. Bienvenue à Nadia qui va nous faire la chronique de Les voleurs d'innocence de Sarai Walker, paru chez Gallimaster. Mais quelle surprise, Gallimaster !
Hein ? Oui. Eh bien, étonnamment, j'ai acheté ce livre un peu à l'aveugle, sans lire le quatrième de couverture. Bon, j'étais rassurée, c'était un livre Gallimaister, mais surtout parce qu'il y avait un bandeau sur le livre qui disait que c'était un prix littéraire des lecteurs. Donc, c'était une bonne pioche parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un page-turner. Mais étrangement, je ne saurais pas comment qualifier ce roman que j'ai trouvé bizarre et hautement symbolique. Alors, c'est une vieille femme qui nous raconte cette histoire depuis le Nouveau-Mexique. Et cette femme est un peintre célèbre. Dans sa vie d'avant, quand elle s'appelait encore Iris, elle habitait une grande maison à Bellflower, près de Greenwich Village. Cette énorme bâtisse victorienne avait la forme d'une pâtisserie et elle avait l'habitude de l'appeler le gâteau de mariage. C'est là que vivait la famille Chapelle, fabricant d'armes fortunées. Une aile du château de mariage était dévolue aux 6 enfants que des filles avec des prénoms de fleurs. Par père, les sœurs se répartissaient chronologiquement dans 3 chambres sur les murs desquelles leur mère Belinda avait peint des fleurs illustrant leurs prénoms. La seule activité de Belinda était de s'occuper de ses fleurs. Elle disait que la maison était hantée par tous les morts suscités par les armes chapelles. En 1950, ces jeunes filles n'avaient qu'une seule certitude dans la vie, celle de se marier. Les deux aînées envisageaient le mariage comme l'occasion de partir, car elles aspiraient à vivre de nombreuses expériences hors du pesant gâteau de mariage et cette mère tragique, hantée par les esprits. Malgré le peu de vie sociale dans la famille, certaines avaient investi des champs culturels. Carla, la numéro 3, lisait passionnément, même à table, et s'adonnait à la poésie. Daphné aimait bien lire des romans salaces et dessiner avec talent. Iris partageait ce même engouement pour la peinture. Et Zélie, la Benjamine, préférait la musique. Quand Esther, l'aînée, annonce son mariage, Belinda a le pressentiment que quelque chose d'horrible va se produire. Iris est la seule à donner un peu de crédit à vos propos de sa mère. Eh bien, vous savez quoi ? Elle avait raison. Dès le lendemain des noces, Esther décède dans une crise très surprenante. Le médecin de famille est peu apte à éclairer la situation, sinon à prescrire des sédatifs à Belinda. Quelques mois passent et c'est au tour de Rosaline d'annoncer son mariage. Le même scénario se répète. « Sitôt mariée, sitôt enterrée », chantent les enfants du village. Voilà, toutes les filles Chapelle meurent tour à tour, sauf Iris. Celle-ci, déterminée à échapper à son destin, a compris qu'il lui fallait partir et changer d'identité. On sait bien qu'il y a toujours un moment où le passé frappe à la porte. Iris, qui s'appelle maintenant Sylvia, nous raconte cette histoire, celle des traumatismes qui ont scellé le sort de la famille Chapelle, des filles Chapelle, mais aussi les voies d'émancipation à travers la création. Sarah Walker s'est inspirée des œuvres de Georgia O'Keeffe et a ainsi donné un tour profondément féministe à son propos. Voilà, c'est un drôle de roman qui se dévore. Ça s'appelle « Les voleurs d'innocence » de Sarah Walker chez Totem Gallmeister.
Eh bien, on ne se mariera pas avec, voilà. Et si on se faisait une pause musicale, Véro, la rédac chef, vous a calé Tahiti 80, un groupe que les addicts d'Ocar de Tours connaissent bien. Vous pourrez les retrouver au Bateau Ivre le 17 octobre. On s'écoute. Hello, hello. C'est le moment tant attendu de la chronique de Remix, qui doit avoir bien la pression puisqu'il semblerait qu'on soit sur son lieu de travail. Tu vas nous parler BD avec Les Julis de Nilso, paru chez Misma Édition. Remix,
oui,
tes collègues t'écoutent. Ils ne sont pas tous bienveillants.
Aucun. Vous connaissez les doudous en tissu? En ce qui me concerne, il y a des lectures doudous qui font du bien, qui apaisent, qui redonnent de l'espoir. C'est le cas de ce livre, qui est plein de douceur, de bienveillance, et c'est franchement bon. Il ressemble parfois à un carnet de croquis, et au rythme de l'histoire, parfois les dessins sont de véritables miniatures, parfois ils sont aussi travaillés que les gravures illustrant les premières éditions de Jules Verne, avec des textes qui peuvent parfois ressembler aux plus beaux des haïkus. Il y a, je trouve, du Sempé et du Jacques Tati dans ce livre, qui prend le temps de rêver, et ça fait vraiment du bien. Les Julis, ce sont de minuscules créatures, sortes de génies, qui aux premières lueurs, c'est un nouveau mot, c'est pour ça, du premier jour du mois de juillet, sortent de leur coquille sous l'eau et rejoignent la surface du monde pour parcourir le temps du mois de leur existence, et ben, la terre, les mers, les montagnes. Combien il y a de Julis? Nul ne le sait. Pourquoi marchent-ils? On ne le sait pas plus. Les croise-t-on vraiment? Ou sont-ils le fruit de l'esprit de ce père qui voit son fils trop grandir dans le livre? Certains disent que les Julis n'existent pas. Ils n'existent que dans les rêves, peu importe. Et je dois vous dire que, après chaque pause dans ma lecture, je retrouvais le plaisir de fixer, d'observer, de regarder les Julis dans leur périple, dans les bois, à la campagne, ou de suivre les palabres du père et de son fils dans une barque ou marchant sur les branches d'un arbre pour traverser un précipice. C'est vraiment un joli livre. C'est pour moi un véritable chef-d'œuvre et ça fait vraiment du bien de lire des bouquins comme ça.
Eh bien, merci Rémix. C'est au tour d'Odile, hein, avec une chronique qui avait été lâchement supprimée lors de la dernière émission pour cause de timing serré. Mais cette fois-ci, c'est la bonne, enfin on l'espère. On écoute ta chronique, Odile, de « Quand tu écouteras cette chanson » de Lola Lafon, parue au Livre de Poche.
Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon, parue au Livre de Poche. Lola Lafon est une autrice reconnue. Je vous invite à lire ses romans comme « Chavirer »,« La petite communiste qui ne souriait jamais » ou « Une fièvre impossible à négocier ». Il y en a 7 en tout. Dans ce roman, c'est un peu particulier parce que Lola Lafon a été invitée à participer à la collection qui s'intitule « Une nuit au musée ». Et donc c'est elle qui a le choix du musée qu'elle va investir et elle choisit la maison transformée maintenant en musée, la maison d'Anne Frank à Amsterdam. Enfin, maison, c'est pas tout à fait exact. C'est l'annexe exiguë de 40 mètres carrés au-dessus de la société tenue par le papa d'Anne Frank. C'est dans cet endroit que la famille et un autre couple, donc en tout 8 personnes, vont se cacher pendant 25 mois avant d'être arrêtés par la Gestapo et envoyés au camp de la mort. Seul le père en reviendra. Donc vous imaginez, c'est un musée, mais un musée qui montre le vide, la cruelle absence de ses occupants. Ce récit ou ce roman regorge d'infos sur Anne Frank et sur le rôle tenu par le papa dans l'édition du fameux journal d'Anne Frank. On y parle aussi du rôle du showbiz américain dans les années 50, qui trouve cette histoire vraiment formidable et en fait un film et même une pièce de théâtre. Alors, pourquoi faire ? Pour faire d'Anne Frank une adolescente universelle. Alors, pour que ce soit universel, bien sûr, on gomme juste sa judéité. Et on gomme aussi la fin qui est un petit peu trop sordide. Alors, on peut se moquer des Américains qui ont fait ça, mais moi, quand j'ai lu le journal d'Anne Frank au collège, je suis absolument certaine que je n'ai pas lu les passages sur la masturbation. Donc, il y avait eu quand même une espèce de censure. Mais revenons à ce roman ou ce récit romancé de Lola Lafon. Imaginez l'expérience. Passer la nuit toute seule dans un musée. Bah, ça peut être impressionnant. Mais alors, dans une cache à l'histoire sordide, mais c'est d'un glauque. Les fantômes de la famille d'Anne Frank, connus dans le monde entier, traduits dans toutes les langues, sont presque palpables. D'ailleurs, sur le mur, Otto Frank, le papa, noter d'un coup de crayon sur le papier peint la taille de ses filles, qui grandissaient pendant qu'elles se cachaient dans cette annexe. Alors tout au bout d'un couloir, il y a la chambre d'Anne Frank, avec ses posters de stars américaines, ses photos de princesses. Mais c'est tellement impressionnant qu'il faudra à Lola Lafon toute la nuit pour oser franchir la porte. Donc elle nous raconte cette expérience, ses découvertes, parce que Anne Frank n'est pas seulement l'ado qui tenait un journal, comme on voudrait nous faire croire. Comme, hélas, elle avait beaucoup de temps à revendre, sans pouvoir bouger, sans pouvoir sortir, elle a réécrit ce journal. Donc, en fait, elle a fait presque un travail d'édition. Clairement, elle écrivait pour le futur, pour être lue. C'est bouleversant, parce qu'en parlant d'Anne, Lola Lafon nous livre aussi un portrait d'elle-même. Jeune roumaine, arrivée en France à 12 ans, non seulement roumaine, mais... Et juive, d'où certains parallélismes. Figurez-vous que Ceausescu n'aimait pas trop les juifs non plus. Comme tout bon migrant qui veut s'intégrer au plus vite, Lola va cacher son identité juive. Elle va aussi cacher sa nationalité roumaine. Parce que pour elle, il faut rentrer dans le moule, il faut se fondre. Mais bien sûr, cette généalogie cachée, cette histoire non transmise, cette volonté absolue d'être une bonne française, c'est-à-dire parler correctement, sans accent, et une bonne juive, c'est-à-dire rire aux blagues juives et ne pas mentionner la Shoah, oblige les descendants, les enfants, à endosser une super responsabilité, celle de faire mieux que les anciens, même si cette mélodie persistera toujours en fond sonore et hantera ses enfants d'un passé écrasant qui n'est même pas le leur. Lola Lafon décrit à merveille son enfance dans les années 80. Il n'y a pas d'étoile jaune en France, mais il y a du non-dit. Je cite un passage. La musique vendait de l'optimisme mondialisé, « We are the world », un monde nouveau, dans lequel on n'aurait plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Il suffisait d'y croire par la grâce d'une petite main jaune accrochée au revers de son blouson. Les racismes reculeraient, on ne toucherait pas à mon pote. C'est dingue, hein. Moi comme Lola, j'ai eu 15 ans dans les années 80, et qu'est-ce que j'aimerais encore être jeune et conne pour croire à ce genre de choses. Je vous conseille Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon, parue au Livre de Poche.
Eh bien, merci Odile. Deuxième pause musicale avec Chill Bump, encore un groupe multi-diffusé sur Ocar. La dernière fois, c'était en 2024. Hein, et ils seront au Temps Machine le 26 octobre et on s'écoute OMG FOMO.
You bought a new blue tick. I was too sick before my pews grew thick. A nickel UFO spit and dudes knew it. I battle at the lunch break and taking fruit juice bricks. We had a sick crew. We would shoot hoops with we zip brews. Plus bliss bumping new woo shit. Before smartphones, I only saved a few group pics. We done came a long way since that FUBU trip. We kept rhyming, scratching the usual shit. I made the living off of this. Fuck the dude too quick. We got fans who crave for new music. Screaming,
oh my god,
like that white bitch in every YouTube clip. We in a different country every week. We got work to do. Tom Hanks, we practically sleep at the terminal. You're just a bitter rapper. Yep. People never heard of you. Insecure dude taking peeks at the urinal. It's cocky, it's ballsy, it's gritty. An anglerfish mug shot, it ain't nothing pretty. This shit goes hard like that Viagra stiffy. They like OMG when we come to the city.
Oh my god. Oh my god.
Oh my god.
Oh my god.
Oh my god.
Oh my god.
Oh my god.
Oh my god.
Oh my god.
Oh my god.
Oh my god.
Oh my god.
Oh my god.
Oh my god.
Oh my god.
Oh my god.
Oh my god.
Is our best new friend. Fuck a shot, homie, that's 210. You want out, homie, F you then. Feel that J-O-Y. We buzz now, we ain't so shy. We let loose as the day goes by. Different city, same old vibe. I'm Kurt, Kaz in a city I don't know. Please give me my GoPro. I'm trying to minimize FOMO. Tonight I'm spending my show dough. I finish my stage duty. Let the bass vibrate through me. I'm just trying to get a nut like the squirrel in the Ice Age movie. Then we back to the hotel. We smash and we don't tell. My life is magic, like an African folktale. Don Perry on splash, D-Funk heavy on blast. All highs, no lows, plus everyone's trashed. Don Perry on splash, G-House heavy on blast. Gotta make the most of this, time's already gone fast. F-U-N, fun is our best new friend. Fuck a shot, homie, that's 210. You want out, homie, F you then. Feel that J-O-Y. We buzz now, we ain't so shy.
Voilà, de retour sur la Radio Béton sur le 93.6 dans l'émission des poches sous les yeux, l'émission... On a déjà écumé d'autres établissements de la famille des bibliothèques de la ville de Tours, mais c'est la première fois que nous nous retrouvons à la médiathèque des Fontaines. Merci à Walfia Gagneux et Sandra Jacobert de nous recevoir. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et bonjour à Pascal Rémy qui, lui, est à la médiathèque. Alors, la première particularité est que vous êtes situé en plein cœur d'un quartier de Tours et de bars HLM. Est-ce que ça change quelque chose à une bibliothèque et à une médiathèque ?
Bah on adore ce genre de public. En fait, c'est très éclectique.
C'est vraiment varié au niveau des publics. On a vraiment toutes les classes sociales et c'est, je dirais que même à l'instar de la centrale qui est un peu la référence sur le réseau, on a un public qui est vraiment extrêmement large et extrêmement varié. Et les gens se côtoient en bonne intelligence tout le temps.
Ça se voit aussi aux sections jeunesse ?
Oui, donc on n'a pas forcément que des gens du quartier, on a aussi les communes voisines qui viennent nous voir, puisque il faut savoir qu'à la bibliothèque de Tours, il y a la gratuité jusqu'à 18 ans, donc ça attire beaucoup de lecteurs, enfants. Donc,
Ce qui n'est pas le cas des bibliothèques dans d'autres villes de la métropole.
Exactement. Il y a des... Après, ça dépend des communes, donc je ne voudrais pas non plus faire une mauvaise publicité pour les communes voisines, mais certaines communes, oui, font payer un prix pour pas très cher, mais...
D'accord, mais on peut les citer, parce que finalement, ce qui serait mieux, c'est que ce soit gratuit pour tout le monde.
Oui. Alors nous,
comme cela l'a été...
un moment, oui, dans le réseau.
Quand j'étais plus jeune, c'était c'est gratuit. Vrai.
Et finalement, j'ai mal vécu
ce changement.
Alors, il faut savoir qu'il y a aussi des communes maintenant qui pratiquent la gratuité pour les adultes, pour tous. Et on voudrait bien défendre, mais c'est une autre histoire.
Donc là aujourd'hui, c'est payant pour les adultes. Et gratuit pour un certain nombre de d'âges ou de catégories. C'est quoi les conditions?
Alors déjà jusqu'à 18 ans, donc c'est la gratuité. Si on est étudiant ou apprenti, on a encore la gratuité. Et puis, comme disait Sandra, au niveau des minima sociaux...
Voilà, il faut être demandeur d'emploi. À ce moment-là, c'est gratuit. Sinon, c'est 12 euros pour l'année.
Et pour les vieux, il y a quelque chose?
Pour les seniors.
Pareil, les minima sociaux. Ah, ouais.
Voilà. Mais d'accord, il n'y a pas de condition d'âge, quoi.
Non,
il y a aussi condition de lieu d'habitation. Parce que pour les extérieurs, c'est 25 euros pour les adultes.
En métropole.
Oui. Voilà, c'est ça.
D'accord. Alors, la deuxième particularité un petit peu de cette médiathèque, c'est qu'elle se situe dans l'espace Jacques Villeray. Ce bâtiment n'est pas seulement qu'une médiathèque, une bibliothèque, mais c'est aussi une salle de spectacle, une mairie annexe, un centre social. Est-ce que c'est une contrainte ou une opportunité?
Les deux à la fois, parce qu'en fait, la médiathèque est placée à l'étage. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne franchissent pas les escaliers. C'est un peu dommage. Peut-être qu'il faudrait revoir un peu la signalétique. Mais sinon, oui, ça amène quand même des gens, parce que les gens qui viennent au spectacle, quelquefois, en attendant, viennent faire un tour à la médiathèque et découvrent nos bel espace. Surtout qu'on a la chance, différemment à la bibliothèque centrale, c'est que tout est sur le même niveau. Aussi bien la jeunesse, adulte et musique et cinéma. Et ça, c'est très appréciable. Pendant que les enfants regardent les livres jeunesse, eh bien, les parents peuvent regarder leurs livres adultes. Ou les films, pardon.
Il y a sûrement des stats sur les emprunts. Est-ce que la médiathèque des Fontaines a des particularités par rapport aux autres établissements tourangeaux?
On n'a jamais assez de fréquentation. Donc on aimerait qu'il y ait plus de gens qui viennent.
Dans la partie qui est au niveau emprunt, c'est le même, il n'y a pas de particularité?
Non, c'est la même chose. Ce qui est très emprunté, évidemment, c'est la bande dessinée, les mangas.
Oui.
Mais c'est la même chose qu'au niveau national, en fait.
Intra-tour, non, vous ne faites pas de stats sur la différence qu'il pourrait y avoir entre la bibliothèque centrale, celle des Fontaines, celle de Verdun, non?
Non, c'est vraiment la même chose sur tout le réseau.
Ah. Oui, il y a pas mal d'emprunts en jeunesse.
Oui, la jeunesse, vous fonctionnez bien parce que l'espace est vraiment particulièrement beau, développé. La section jeunesse est très belle aux Fontaines.
Il y a beaucoup de clients, entre guillemets, mais parce que c'est gratuit ou parce que c'est un âge où on a plus l'habitude, on ose plus facilement franchir, où on est incité d'ailleurs?
Alors, on est incité par les parents, parce que pour franchir, on ne vient pas tout seul. Mais c'est vrai que le choix fait que les enfants adorent emprunter des tout petits, en fait. On a des magnifiques albums colorés et puis un grand choix aussi, je dirais, que ce soit en bande dessinée, en manga, en revue, en livre documentaire. On a même des livres audio, des albums, des livres avec des CD. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choix et c'est important pour donner cette envie de lire. Et ça commence vraiment tout petit.
Côté adulte? Comment les attirer?
Comment les attirer? On fait des animations aussi, beaucoup. On a un club de lecture, par exemple, qui a redémarré là, pour la saison hier soir. Il est très fréquenté.
C'est quoi un club de lecture?
On
vient parler de son bouquin?
Oui. Et puis, évidemment, on fait ça autour d'un thé, d'un goûter, c'est mieux. Et on vient parler, pas seulement de livres, mais par exemple, Pascal a présenté... présente quelquefois des DVD, des livres musique et cinéma.
À l'heure de Netflix, des réseaux sociaux, Est-ce que vous notez une désaffection de la bibliothèque ou pas ?
Non, moi je dirais que c'est un plus en fait d'offrir. Enfin, il y a aussi l'abonnement Nomade où il y a des livres numériques. Mais bon, pour les enfants, vu le choix des livres très colorés, on a besoin aussi de toucher bon, le enfants, papier. Les enfants,
ils ne sont pas encore tombés dans voilà. Le web. Parce qu'ils sont encore très surveillés, enfin jusqu'à...
Oui, c'est ça. Et puis voilà, si on peut éviter les écrans tout petits, c'est mieux.
En dessous de 10 ans, c'est plus facile.
Peut-être. Et ben, il y a l'attrait, oui, je vous dis, hein, des livres colorés.
Et puis les parents n'ont pas envie, comme il faut raconter une nouvelle histoire tous les soirs à son enfant, si ça peut ne pas trop coûter, c'est aussi bien.
Bah oui, tout à fait. Et puis de partager un bon moment avant le coucher, c'est vrai que c'est chouette avec son enfant.
Et toi, Pascal, finalement, la musique, moi, si tu me donnes un CD, à la limite, je ne sais pas quoi en faire. Hein, je peux te le rendre, mais je n'ai pas d'ordinateur qui a un lecteur CD. Alors, j'ai un lecteur CD externe, mais faut aller chercher, le brancher, le dépoussiérer. Alors, c'est des papis qui viennent écouter de la musique, c'est ça ?
Pas que du papy, il y a aussi on prête du vinyle maintenant, et du vinyle de la nouveauté. Et en même temps, l'avantage des bibliothèques, quel que soit le support, c'est que maintenant, tu n'as plus beaucoup de prescripteurs. Tu as sur Amazon, par exemple, il y a pas mal de gens qui reviennent d'Amazon et Netflix parce que... Ah, je sais plus comment.
Tu fais plus de découvertes, en fait.
C'est pas des découvertes, là. Nous, on a l'avantage de pouvoir être prescripteurs, c'est-à-dire qu'on fait déjà une sélection en amont. On connaît un peu notre public et ça permet de, en cherchant, de pouvoir...
De donner des conseils de lecture.
De conseils de lecture, des conseils musicaux, de faire découvrir des gens. Parce que les algorithmes, c'est bien, mais tiens, si vous avez aimé ça, c'est par exemple tel groupe de folk, il y a un groupe de métal qui va avoir la même démarche intellectuelle et... Tu fais écouter ça aux gens, ça va les intéresser. Ou alors, tiens, vous avez aimé ce roman, eh ben, il faut savoir que le romancier, il est écrivain. Enfin, il est chanteur. Et pour revenir aux plateformes...
Tu parles de Naive New Beaters, là,
non ? Non, 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 pas d'eux. Mais je parle de Netflix, par hasard. Les gens reviennent parce qu'effectivement, il y a 2000 films, mais... Enfin, je dis 2000 films, mais... T'as 95% de, pas de navets, mais enfin de films maison. Les gens ont envie de propositions extérieures, ont envie de retrouver des films qu'ils ne vont pas trouver. Bon, ça va être par exemple des vieux, ça peut être des vieux Jean Marais, mais ça peut être plein d'autres films. Et ça, les gens, si tu demandes le capitaine à Netflix, il va te regarder, il va dire c'est quoi ? Et ça, justement, après, ça peut être autre chose. Ça peut être le glaneur, enfin des films de la nouvelle vague que Amazon ne va pas forcément proposer.
Vous remarquez ça, vous aussi, dans la section jeunesse ou adulte, ce besoin de conseils ?
Oui, tout à fait. Il y a besoin d'orienter les familles, surtout quand elles viennent s'inscrire la première fois pour connaître les différents espaces. Et puis aussi, on a des couleurs pour s'orienter. Donc, le jaune pour les plus petits. En intermédiaire, ça va être la couleur blanche. Et plus on va après vers l'ado, ça va être vers le vert. Donc il y a quand même besoin de conseils. Et aussi notamment, il y a souvent des recherches thématiques là, en début d'année avec les enseignants, là, s'ils veulent travailler sur la rentrée des classes ou sur l'automne. Donc il y a vraiment besoin de conseils pour eux.
Et donc ça nécessite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une action culturelle de votre part, en tout cas des efforts pour pouvoir attirer... le chaland. C'est quoi le programme, votre programme pour ce dernier trimestre 2024 ?
On accueille, par exemple, on fait des après-midi jeux vidéo, le 16 octobre, là, par exemple, du rétro gaming.
Jeux vidéo, c'est-à-dire c'est comme on voit des ados alignés qui...
Ouais, mais du coup, ils sont tous ensemble. Il y a de l'échange, et puis tous âges, parce qu'il y a des gens plus âgés qui viennent aussi. Donc les gens se rencontrent, ils sont avides de ça, en fait, plutôt que de rester chez eux tout seuls. Ouais. On a par exemple aussi samedi 19 octobre, on accueille Guénaël Boutouillet. C'est un monsieur qui vient avec sa grosse valise de livres et il nous présente la rentrée littéraire. Et c'est passionnant parce qu'on apprend plein de choses sur les éditeurs. Voilà, pas forcément sur la grosse cavalerie qu'on a l'habitude d'entendre à la radio, à la télé. Voilà, là c'est vraiment des choses plus confidentielles. Voilà, ça c'est samedi 19 octobre, ça doit être à 15h. De 15 à 17h. Ça, c'est passionnant, faut venir.
Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Pascal. C'est que si t'as pas de lecteur, nous, on peut t'en prêter un.
Ah. Exactement, c'est vrai. C'est vrai qu'on fait ça.
Une platine vinyle, on peut te prêter une platine DVD. Voilà, si vraiment
oui, on a pensé à tout.
Tu faut vraiment pas te. D'accord. Ça nous fait plaisir.
Merci Pascal. Et côté jeunesse ?
Alors il y a aussi des animations. Là, mercredi, on vient de faire un ciné-livre en partenariat. Donc c'est la section jeunesse et musique et cinéma. Donc un ciné-livre, ça consiste en quoi ? C'est d'abord une lecture d'albums, d'histoires. Et puis ensuite, une projection de petits dessins animés. Donc ça, ça plaît beaucoup. Et c'était à partir de 4 ans. Le mercredi, et puis là, le 12 octobre, donc c'est plutôt un samedi, c'est l'heure du conte pour les tout-petits, et c'est pour les moins de 4 ans, donc c'est à 11h, ça s'appelle Tic Tac Sagazouille. Donc chaque mois, on fait des animations pour la jeunesse. Donc évidemment, il y avait des jeux vidéo, et après ça repart pour mon petit ciné aussi, le 23 octobre. Voilà, on a aussi des spectacles qui viennent.
Ah bah, tout un programme, donc.
Voilà, tout un programme.
Ouais. Et donc, pour conclure, on vous avait demandé de nous préparer un petit conseil de lecture.
Puisque
vous êtes prescriptrice, qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Moi, j'aimerais vous présenter un roman d'anticipation américain. Une dystopie, parce que j'adore ça, ça fait réfléchir à la liberté, à la mémoire. C'est un livre qui est sorti en 92, c'est Le Passeur de Lois Lowry. C'est un livre qui est plutôt étiqueté section jeunesse, ado. Donc je l'ai lu en fait assez récemment parce que c'est sorti aux adultes en bande dessinée, ça a été adapté. Et voilà, ça a décrit une société totalitariste où les individus sont dénués d'émotions, pris en charge de leur naissance à leur mort, sans aucune prise de choix. En fait, le slogan, c'est un peu la vie sans couleur, sans douleur, sans passé. Et voilà, ça a été la première dystopie officiellement destinée à un public ado. Et depuis sa sortie, il s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Et il a même été intégré au programme de collège et de lycée. Voilà, c'est un livre qui fait grandir, je le mets au même rang que Le Meilleur des Mondes, d'Aldous Huxley. Voilà.
Très bien, merci. Je suis fan de ce genre de, ouais, de lecture. Voilà,
et... Alors, pour les plus jeunes, donc moi, je viens de découvrir un album d'Alice Melvin, Le Voyage de Souris sur la rivière. Donc, c'est suite au livre Souris des bois, qu'elle avait écrit aussi. Et donc, c'est un livre tout en couleurs, magnifique, avec des rabats. Alors, évidemment, à la radio, on ne voit pas. Mais vous pouvez faire confiance. D'accord. Voilà, on soulève les rabats, on a des jolies couleurs.
Ça, les enfants adorent soulever voilà. Les rabats.
On peut se perdre, on peut aussi aller dans les petites maisons de la souris. Et ça, c'est vraiment très, très chouette. Et donc, à la fin de cet album, on a aussi une partie documentaire qui explique ce qu'on peut trouver sur la rivière. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Et donc, aussi une nouveauté pour les plus petits, un imagier qui ne tourne pas rond de Hello de chez Sarbacane, où il faut tourner une petite roue. Et même dès la première couverture, on a une image qui change. Donc, il faut trouver. On a 4 choix possibles. Quel est il faut le trouver bon. Le bon.
Très voilà. Bien. Une dernière petite question pour la section jeunesse. Je ne sais pas si tous les enfants... sont comme les miennes, mais un enfant devant un bouquin comme ça, la deuxième, il va grabouiller dessus, donc il n'y a pas des dégâts là, sur les bouquins.
Alors si, il y a des dégâts évidemment, mais bon, on essaie quand même, en tant que parent, d'accompagner son tout petit et puis à respecter le livre. Alors après, des dégâts, oui, il y a des livres qu'on met de côté quand ils sont abîmés, mais bon, on a des budgets qui permettent aussi de bien renouveler nos collections. Et d'être toujours à la pointe du jour.
Donc voilà, il n'y a pas de souci.
Eh bien, merci Walfia Gagneux, merci Sandra Jacobert,
merci
de votre accueil. On va se faire une pause musicale. Une pause musicale, Los Bichos, un groupe, encore un groupe d'Ocar, hein, on s'excuse, mais Remix, que vous avez entendu tout à l'heure, est l'un des programmateurs du festival et nous oblige à faire des pauses Ocar. On écoute La Bomba. Mes amis, un peu de silence, un peu de concentration, et il va vous en falloir pour essayer de comprendre l'intrigue du 11e épisode de notre feuilleton radiophonique, La Bourboule Parano. Mais bonne nouvelle, bonne nouvelle, Radio Biton diffusera l'intégrale de la saison 1 de La Bourboule Parano, donc en novembre, avec un nouvel épisode chaque jour.
Vous connaissez La Bourboule ? Eh bien, vous avez tort, c'est là que j'ai connu Albert.
La Bourboule Parano, le feuilleton made in béton.
Précédemment, Chicken a été transformé en canard. Non, ne cherchez pas la blague ou la contrepétrie, il n'y en a pas. Je vous rappelle que moi, je n'y suis pour rien dans ce feuilleton foutraque. Je suis juste la gentille voix off qui essaie de vous faire raccrocher les wagons dans cette histoire. Qui, soit dit en passant, ne se passe plus dans une gare, mais sur la route en direction de La Bourboule. Le prez et la patronne ont récupéré Chicken, transformé en canard, et font du stop. Ils viennent de trouver un automobiliste à l'humour foireux. Chkoumoun un jour, chkoumoun toujours.
Bon, les jeunes, c'est pas tout ça, mais je vous laisse là, moi. La Bourboule, c'est à 150 km environ. Le plus simple, à mon avis, c'est de passer par Vichy. Je suis dans son froc, hein.
Alors là, c'est le pompon sur le gâteau, hein. Je sais pas vous, mais moi, je ferai pas un pas de plus aujourd'hui.
Bah, on a qu'à aller à l'hôtel.
Et avec quel fric ? Ma carte bleue restait dans le train.
J'ai de la thune, moi. J'ai des billets dans ma poche.
Dans ta poche ? Mais quelle poche ? T'as pas de poche ?
Si, j'ai une poche. Et pourquoi j'en aurais pas ? C'est vachement pratique, une poche.
Mais parce que tu es un...
Bon, allez, c'est bon, on s'en fout. Il y a un hôtel qui est juste là, on y va. Moi, je suis crevée. Allez, tu remets Chicken sous ton pull.
Et pourquoi ça serait moi qui...
Merde !
Quelques instants plus tard, dans le couloir de l'hôtel.
Allez, bonne nuit, les gars. À demain.
Bonne nuit. Putain, Chicken, tu fais chier. Ça fait même pas un quart d'heure qu'on est là et tu fais déjà chier.
Où tu vas, là ?
Je me casse.
Attention, la suite de cet épisode est déconseillée aux personnes sensibles.
Qu'est-ce que tu veux ?
Je peux t'emprunter du dentifrice, Chicken, à manger celui qui était dans la salle de bain.
Vas-y, entre.
Oh, dis donc, elle est bien ta chambre.
Ouais, allez, tiens, le dentifrice.
Merci. Dis donc, je voulais te dire, comme on est que tous les deux là, enfin, je voudrais m'excuser pour mon attitude à la gare. Je reconnais que c'était un peu inapproprié.
Ouais, c'est bon, ouais, je t'en veux pas. Mais le truc, c'est que t'es parfois un peu balourd. Hein.
Tu m'en veux pas, t'es sûr ?
Mais non, j'étais énervé, mais maintenant ça va mieux. Depuis le temps qu'on se connaît, je peux pas t'en vouloir, gros bêta.
Hein ? Mais qu'est-ce que tu fais ?
Bah, je m'assieds à côté de toi, j'ai pas le droit.
Bah, si, bien sûr, mais. Mais qu'est-ce que tu fais ?
Bah, je pose ma main sur ton genou, j'ai pas le droit.
Ah bah, si, bien sûr, mais. Mais qu'est-ce que tu fais ?
Bah, j'approche mes lèvres de ta bouche, j'ai pas le droit.
Bah, si, bien sûr, mais.
Tu veux pas t'allonger un peu ?
Mazette ? Cette langue a la souplesse de l'anguille et la vélocité du colibri.
Allez, enlève ça !
Ah bah, je voudrais bien, mais c'est. C'est coincé !
Bravo, champion, elle est pas née la chaussette qui te résistera. Dis-moi, mon cochon, mais tu fouettes le canard !
Ah, désolé. Tu veux que j'aille me doucher ?
Non. Au contraire, ça te donne un côté sauvage. Rrr. Attends, enlève un peu la jambe.
Celle-là ?
Non, l'autre.
Ah, celle-là ?
Non, l'autre.
Celle-là ?
Mais non, pas celle-là, l'autre.
Celle-là ?
Putain, non, l'autre, la gauche.
Ah, celle-là ?
Non, la gauche, je te dis.
Bah, c'est pas celle-là, la gauche ?
Mais non, c'est l'autre. Celle qui a le gros orteil à droite.
Ah, ok. Ah bah dis donc, c'est vachement bien ton truc mnémotechnique là, parce que moi j'ai toujours un peu de mal avec la gauche et la droite. Un jour j'ai même inversé mes tongs et je te dis pas comment j'avais les rikikis en feu en rentrant de la plage.
On pourrait pas parler de ça plus tard ?
Oui, pardon, autant pour moi.
Ah. Ça te plaît ?
Ah oui.
C'est bien, hein ?
Ah oui, c'est bien, ouais.
Et comme ça ?
Comme ça ?
Non, comme ça.
Là ?
Et oui, ça, là, et ça. Et ça, comme ça.
Là ?
Mais non, pas là. Là !
Ah bon ?
Bah oui, si tu mets ça là, bah du coup, ça risque de passer par là.
Ah, tu crois ?
Bah oui, bah évidemment. Pff, quelle empotée ! Mais il faut que tu fasses passer ça par là, là, tu vois, là, voilà. Et après, ça, tu fais le tour, et puis tu repasses, et puis tu repasses par là.
Ah oui, tiens. Ah, tu vois, je voyais pas du tout ça comme ça.
Alors, c'est pas mieux comme ça ?
Ah, formidable.
Ah bah, c'est bien mieux, hein.
C'est très, très bien mieux.
Bah oui.
Oh, la patronne, je...
Ouais ?
La patronne, je...
Oui ?
Oh, la patronne, je...
Ouais, quoi ?
Oh, la patronne, je...
Bah, quoi, à la fin ?
Quoi ?
Bah, tu n'arrêtes pas, la patronne, je... Tu vas pas la finir, ta putain de phrase, c'est agaçant à la longue. Ah, oh, puis arrête de m'appeler la patronne, c'est pas du tout excitant.
Bah, tu veux que je t'appelle comment ?
Par mon prénom, par exemple, ça se fait ce genre de choses.
Ah oui, d'accord. Bah, ok, bah écoute, pas de problème.
Tu connais mon prénom, au moins ?
Ah, mais oui, bien sûr.
Tu t'en souviens ou tu t'en souviens pas ?
Mais évidemment que je m'en souviens, qu'est-ce que...
Bah alors vas-y, dis-le.
Mais je vais le dire.
Allez, j'attends.
Mais je vais le...
Hé, qu'est-ce que vous faites les copains ?
Mais Chicken, t'es complètement fou de débarquer comme ça sans prévenir !
Eh, tu veux nous faire crever ou quoi ?
Pourquoi la patronne elle a la motte à l'air ?
Dis donc, je te permets pas. Je te rappelle que je suis ta supérieure hiérarchique. Alors un peu de respect.
Pardon, excuse-moi. Pourquoi la patronne expose-t-elle son pubis à la vue de tous ?
Mais parce que je vais prendre ma douche, voilà pourquoi.
Elle va dans la salle de bain.
Et toi, pourquoi t'as le slibard à mi-cul ?
Dis donc, je ne te permets pas, je te rappelle que je suis ton supérieur hiérarchique, alors un peu de respect.
Pardon, excuse-moi. Pourquoi t'as le slibard à mi-cul ?
Parce que j'avais super chaud, alors j'ai enlevé mon pantalon.
Ah oui, c'est pour ça que t'es en sueur.
Exactement.
Oh putain, le presse, c'est quoi cette paire de boules ?
Quoi ?
Elles sont énormes, mon vieux.
Hein ?
Par contre, tu devrais faire gaffe. Il y en a une qui est rouge comme une tomate et l'autre blanche comme un bidet.
Mais qu'est-ce que tu racontes ?
Bah, tu t'assis dessus ou quoi ?
Ah ça ? Mais non, mais ça, c'est mes boules de billard porte-bonheur. Je les garde toujours avec moi dans la poche arrière de mon slip.
Ah bah tu vois, c'est pratique les poches.
Bah mais j'ai jamais dit le contraire.
Et sinon, vous étiez en train de niquer, non ?
Que ? Quoi ? De quoi ?
Vous étiez en train de niquer ?
Non.
Bah si.
Je te dis que non.
Tu me prends pour un dindon ou quoi ?
Non.
Vous niquez ?
Pas du tout.
Nique, nique, nique.
Tu vas pas recommencer ?
Nique, nique, nique.
Te tairas-tu, maudit palmipède ?
Nique, 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 nique.
Ah ça, je vais te rosser d'importance.
À moi l'SPA ! À moi !
La Bourboule parano. Le feuilleton, made in béton.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Une émission qui sera rediffusée mardi 1er octobre à 18h sur la Radio Béton. Elle sera également réécoutable sur notre plateforme podcast-radiobéton.com ainsi que sur les principaux sites de podcast.
À noter que la prochaine émission aura lieu le 26 octobre, un samedi, toujours de midi à 13h, mais qu'il y aura une émission spéciale le 22 octobre, là, c'est un mardi de 18h à 19h, une émission spéciale Olivier, avec Olivier Pion et Olivier Collet qui ont sorti tous les deux un roman chez Erol dans la catégorie des romans ébouriffants. Voilà. On en reparlera donc le 22 octobre avec eux et avec Elisabeth Segar, la directrice de collection. Merci aux chroniques heureuses, merci à Martin Vinclair, à Céline Giton, à la médiathèque des Fontaines et à Véro qui était une fois encore à la technique aujourd'hui. Au revoir.
Des poches sous les yeux, l'émission.